archives de l'écologie. François Bernard.
Bonjour, merci de nous accueillir à l'écoute des archives de l'écologie. Commerce et environnement peuvent-ils coexister harmonieusement? On est en droit de se poser la question quand on constate que la volonté de faire des profits peut facilement prendre le dessus sur la nécessité de préserver une bonne qualité de l'eau, de l'air ou de la terre. Un souci écologique indispensable à la préservation du vivant en général et de l'humanité en particulier. La question se pose avec acuité depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui réglemente le commerce mondial depuis sa création en janvier 1995. Parvient-elle à trouver un accord entre le principe de libéralisme économique et les préoccupations liées à l'environnement? Notre archive d'aujourd'hui s'intéresse à cette question. Le reportage de RFI que nous allons entendre date de décembre 2001 et fait un premier bilan du rapport difficile entre les lois libérales du commerce et sa nécessaire réglementation quand il met en péril l'environnement. Et comme d'habitude, nous tenterons de voir après cela comment la situation a évolué après les 25 années qui se sont écoulées depuis. Écoutons ensemble et retrouvons-nous dans 20 minutes.
Fréquence Terre.
Ben Kramer.
Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Fréquence Terre, l'environnement dans les mailles de l'Organisation mondiale du commerce.
À l'heure actuelle, ce sont les institutions visant la protection de l'environnement et le développement durable qui sont en définitive les otages de l'Organisation mondiale du commerce.
On manie toujours le bâton et la carotte. La carotte, c'est dire on va évaluer ou on va faire quelques concessions aux environnementalistes et aux consommateurs. Ça reste toujours lettre morte. Et par contre, le bâton, c'est toujours davantage et davantage de libéralisation.
C'est vraiment la libéralisation avec des règles. C'est à cause de ça que maintenant à Doha, le but est aussi de régler le commerce international. C'est pas de le laisser libre.
À Doha, au Qatar, va se tenir la 4e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Objectif affiché, accélérer le processus de libéralisation qui était resté en suspens depuis le sommet de Seattle il y a 2 ans. Un dossier énorme et complexe, avec au menu les questions relatives à l'agriculture, les investissements, les droits de propriété intellectuelle, tous les secteurs de la vie économique et sociale, dont la santé, les services publics, y compris l'environnement. Puisque la libéralisation est la devise de l'OMC, Fréquence Terre ouvre ce dossier avec quelques questions. Qui va bénéficier de cette libéralisation? L'environnement va-t-il en faire les frais? Comment l'intégrer dans les réglementations commerciales? Raoul Génard, docteur en sciences politiques, est un observateur engagé sur les questions de la mondialisation. Raoul Génard.
C'est vrai que l'expérience que les pays en développement ont de l'attitude, du comportement des pays riches dans l'application des accords de l'OMC fonde leur résistance, leur réticence à voir l'environnement intégré dans les règles du commerce parce que, disent-ils et fort souvent à juste titre, il y a un danger de voir ces règles en matière d'environnement utilisées à des fins protectionnistes par les pays riches. On a, c'est pour ça que je dis que les pays en développement sont fondés à avoir des craintes, on a l'exemple par rapport à l'application des règles anti-dumping de l'OMC. L'Union européenne a usé et abusé des règles anti-dumping contre, par exemple, un pays comme le Bangladesh, qui s'est trouvé sanctionné et ce qui s'est traduit par la perte de plus d'1 million d'emplois au Bangladesh et essentiellement des emplois féminins. Donc il y a une crainte d'utilisation de critères environnementaux qui sont par ailleurs tout à fait nécessaires et indispensables à des fins protectionnistes. Et donc dans la formulation de ces critères, il faudra absolument prendre des précautions pour que justement une utilisation protectionniste ne puisse pas être faite par les pays riches.
Dumping social, dumping environnemental, oui, le protectionnisme peut servir de prétexte dans les conquêtes des marchés. Les pays du Sud ont leur raison de se méfier des critères environnementaux. Comme l'explique ici un représentant de l'Association française pour la solidarité agroalimentaire, Solagral, Yannick Jadot.
Les pays du Nord ne seront crédibles sur la prise en compte de l'environnement que s'ils sont crédibles dans le cadre des conventions des Nations Unies qui s'occupent directement d'environnement. Si on prend l'exemple du sommet de la Terre à Rio en 1992, les pays dits développés avaient promis des dizaines et des dizaines de milliards de dollars d'aides supplémentaires pour garantir le développement durable de la planète. 10 ans après, il va y avoir le sommet à Johannesburg qui va faire le point un peu sur comment les engagements qui avaient été pris ont été tenus. Et bien finalement, au lieu de doubler, l'aide aux pays en développement a diminué d'un tiers. Donc si les pays développés étaient crédibles dans le cadre des Nations Unies quand ils disent il faut réduire la pauvreté, il faut réduire l'insécurité alimentaire, il faut prendre en compte les questions de développement, il faut favoriser les transferts de technologies, alors peut-être ils gagneraient en crédibilité quand ils disent dans les questions commerciales, il faut aussi prendre en compte les questions d'environnement.
À l'instigation d'organisations arabes, un forum social sur l'OMC est prévu à Beyrouth début novembre. D'autres rencontres vont avoir lieu un peu partout dans le monde. Selon la branche française de l'organisation ATTAC, le choix de Qatar est le moyen pour l'OMC d'éviter d'être sous la pression des opinions publiques. Malgré les restrictions, au nom de la sécurité, les grandes ONG ont décidé de faire le voyage à Doha. Parmi elles, Greenpeace, qui a dépêché son navire emblématique, le Rainbow Warrior. Au micro, le directeur stratégique de Greenpeace, qui a négocié les autorisations à Doha, Rémi Parmentier.
Ces engagements n'ont malheureusement pour la plupart pas été tenus, et en partie parce que les États ont donné priorité à la libéralisation du commerce international et ils ont donné plus d'importance à l'Organisation mondiale du commerce qu'aux instruments existants visant la protection de l'environnement et le développement durable. Alors, ce que nous voulons, c'est que les États renversent la vapeur et cessent de promouvoir le commerce libre comme une fin en soi, mais le commerce libre, au contraire, devait être un instrument pour développer, pour favoriser la protection de l'environnement et le développement durable. Or, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. L'Organisation mondiale du commerce a un pouvoir considérable. Ils ont la possibilité d'émettre des jugements contraignants pour les États et beaucoup de leurs décisions affaiblissent au lieu de renforcer les accords multilatéraux visant la protection de l'environnement, comme par exemple la Convention sur le changement climatique, la Convention visant la protection de la biodiversité, qui aussi a été adoptée en 1992 à Rio. Et ce que nous demandons, c'est que l'OMC soit, disons, subordonnée aux accords visant la protection de l'environnement et le développement durable, plutôt que le contraire.
Rappelons que l'OMC n'est pas liée par la Charte onusienne des droits et devoirs économiques des États. Mais au secrétariat de l'OMC à Genève, on estime que les notions commerce et environnement ne sont pas inconciliables. Hans-Peter Werner.
En fait, ces traités internationaux pour l'environnement comme CITES pour protéger les espèces en danger et aussi les accords de l'OMC, ce sont les traités internationaux. Ils doivent être vus en parallèle. Une n'est pas plus fort que l'autre. Ils coexistent, en fait. Et chaque juge, chaque juriste sait ça. Chaque gouvernement sait ça aussi. En fait, le MEA, le Multilateral Environmental Agreement, et l'OMC coexistent. Et en fait, il y a beaucoup de présentations et beaucoup de contacts entre les secrétariats pour l'environnement, comme le protocole de Basel ou de Montréal ou de CITES. Et tous ces sortes d'organes, ils coexistent, ils ne sont pas en conflit. Et ça fait déjà un moment qu'on étudie ce problème et en fait, il n'y a pas un problème.
Il n'y a peut-être pas de problème, comme le déclare le porte-parole de l'OMC, car les lois du marché l'emportent aisément. C'est ce que prouvent les décisions prises par l'ORD, l'organe de règlement des différends. Yannick Jadot, de l'association française Solagral.
Prenons un exemple. Au milieu des années 90, les États-Unis ont refusé d'importer des crevettes d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est parce que les techniques de pêche de ces crevettes faisaient que on attrapait en même temps des tortues qui sont une espèce protégée. Donc les États-Unis ont dit, nous on refuse d'importer ces crevettes tant que les méthodes de pêche ne protègent pas les tortues. C'est-à-dire qu'en fait, les pays du Sud, le Pakistan, l'Inde, la Thaïlande et la Malaisie ont porté plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce en disant « Nous contestons la mesure d'embargo sur nos exportations de crevettes des États-Unis ». Des juges se réunissent, c'est ce qu'on appelle un panel, et ils étudient la possibilité pour les États-Unis d'effectivement, pour des raisons environnementales, de faire un embargo sur les crevettes. Le jugement qui a été rendu, c'est de dire « Oui, les tortues sont bien une espèce protégée, mais en regardant l'articulation entre le droit commercial et le droit environnemental, nous pensons que les États-Unis n'ont pas le droit d'imposer d'embargo sur les crevettes. » Donc, on est bien dans un cas où, parce que les gens qui jugent le conflit qui touche à l'environnement sont plutôt des experts commerciaux et qu'ils mettent en avant des principes commerciaux, donc, d'une certaine façon, le droit commercial va primer sur le droit environnemental.
Bref, hormis l'affaire de l'amiante du Canada, les règlements de l'OMC n'incitent pas les pays membres à améliorer leurs performances en matière environnementale. C'est aussi le point de vue d'Agnès Bertrand, qui est l'une des animatrices de l'Observatoire de la mondialisation.
Tout ce qui est de l'ordre du principe de précaution non seulement n'est pas reconnu par l'OMC, mais il est interdit. On a tout simplement le bien connu cas sur l'interdiction européenne de viande aux hormones, qui a quand même été une décision européenne en raison des incertitudes pour la santé des consommateurs. L'Union européenne a été condamnée et elle paye encore à ce jour des compensations pour maintenir l'interdiction de la viande aux hormones. S'il n'y a pas les preuves scientifiques selon les critères édicté par l'OMC, le pays n'a pas le droit de prendre une mesure plus restrictive que nécessaire, c'est les termes qu'on utilise, en matière de protection de l'environnement ou de protection des consommateurs.
Les règles édictées par l'OMC permettent aussi à des entreprises peu scrupuleuses en matière d'environnement de se faire dédommager au cas où. Agnès Bertrand.
Il y a l'histoire de Metalclad. Alors ça se passait dans le cadre de l'accord de l'ALENA. L'accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Metalclad, une société américaine, avait acheté des terres au Mexique où elle comptait éliminer, enfouir des déchets dangereux. C'était des déchets industriels, il y avait des métaux lourds, il y avait absolument de tout. Okay. Ça menaçait les nappes phréatiques. Or, le Mexique avait prévu de faire de cet espace une réserve naturelle. Le fait d'interdire à Metalclad de faire son site de déchets, à ce moment-là, Metalclad a porté plainte pour expropriation et a obtenu d'énormes compensations.
Doha va aussi relancer le dossier de l'AGCS, c'est-à-dire l'accord général sur le commerce des services. Un gros dossier. Les négociations dans ce domaine ne datent pas d'hier. Elles seront programmées dans l'acte final signé à Marrakech en 1994. Officiellement, cet accord a la vocation d'être constamment amélioré. Quelles que soient les implications, voici ce qu'en pense Raoul Génard, qui suit de près la politique de l'Union européenne à ce sujet.
En ce qui concerne les services en matière de gestion des déchets, de captation ou de distribution de l'eau, en ce qui concerne les services dans le domaine de l'énergie, l'Union européenne ne formule aucune restriction, aucune exception. Elle avance des restrictions en matière de santé et d'éducation, mais pas dans les services qui concernent le plus directement l'environnement et qui donc sont susceptibles, lors des négociations qui vont avoir lieu, de faire l'objet de processus de privatisation.
Qui dit privatisation dit aussi liberté de manœuvre pour les entreprises multinationales. Laurence Kalafatides, membre de la coordination contre l'OMC au sein de l'Institut pour la relocalisation de l'économie.
Les firmes multinationales se positionnent au prétexte qu'elles sont performantes, au prétexte qu'elles ont la technologie, le savoir-faire, etc., etc. Quelle est la problématique ? Dans beaucoup de pays, pour l'instant, les gouvernements ont mis certaines obligations en termes de capital, à savoir qu'on ouvre le capital des sociétés qui, la plupart du temps, étaient nationalisées, étaient des entreprises nationales. Donc on dit on va les privatiser. On fait appel souvent à des entreprises étrangères, dont les entreprises françaises, mais on les oblige tout de même à faire participer les entreprises locales à ce marché. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, vous Vivendi, vous Lyonnaise, vous Sors, vous pouvez prendre ce marché à condition que vous constituiez une société mixte dans laquelle intervient une société locale. Eh bien, l'accord général sur le service interdit de facto, lorsqu'il sera finalisé, ce type de réglementation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ouvrez le capital de 1%, vous êtes tenu de l'ouvrir de 100%. Au nom de l'article 16, qui est l'article qui s'appelle l'accès au marché, et qui est en réalité un accord sur les investissements, enfin une portion d'accord sur les investissements. Et donc, dans cet article 16, il est très précisément écrit qu'il ne peut pas y avoir de limitation à la participation au capital étranger. C'est-à-dire que si Vivendi obtient aujourd'hui d'un gouvernement africain 15, 20 ou 50% du capital de l'entreprise nationale qui va être privatisée, la GCS va lui donner le droit d'exiger 100%. C'est donc quand même quelque chose de très grave. Ça veut dire de facto qu'il ne pourra plus à l'avenir se développer, si tant est que c'était possible, une entreprise nationale. La GCS prévoit également que l'on n'a plus le droit de mettre un frein au rapatriement des bénéfices. C'est-à-dire que tous les bénéfices qui vont être réalisés dans un pays africain sur la fourniture des services d'eau pourraient être rapatriés au siège social français, plutôt que d'être réinvestis dans l'entreprise locale et donc de bénéficier aux pays hôtes.
Si l'on en croit les textes de l'OMC, tout pays a le droit d'avoir des objectifs politiques, mais il doit choisir le moyen le moins restrictif pour le commerce. Les gouvernements ne sont pas obligés d'inscrire l'environnement ou tout autre service sur leur liste d'engagement, mais tout engagement est contraignant. Heinz-Peter Werner, porte-parole de l'OMC.
Le secteur énergie, il y a quand même, c'est un service et quelques pays vont être intéressés d'admettre des compagnies qui fournissent ces sortes de services dans le secteur énergie, de les laisser entrer dans leur pays. Mais ça existe déjà. Chez nous, dans le système de GATS, et ça c'est l'accord sur les services, la question est-ce qu'on va en fait faire une promesse à l'OMC pour laisser cette marché-là ouverte à la compétition. Et on est libre de faire ces promesses ou on est libre de ne pas le faire. Et c'est exactement ça. On fait ces promesses parce que pour les autres, c'est un bon signe pour la prédictibilité, la stabilité et la transparence de le système commercial. C'est assez important pour gérer, en fait, une économie stable et qui offre la même ouverture aujourd'hui et à demain. On ne veut pas avoir une situation où demain, la compagnie ou la banque que j'ai à l'étranger va être éjectée par ce gouvernement parce qu'ils ont changé le régime ou ils ont changé le règlement. En fait, là, je perds énormément d'argent. Je veux que ce gouvernement fasse ses promesses à l'OMC et comme ça, les marchés sont réglés.
Parmi les opposants à cette mondialisation libérale, tout le monde n'est pas convaincu que sacrifier les services publics dans les pays du Sud est la recette pour leur assurer une vie meilleure. Raoul Génard.
La logique même qui procède des activités du secteur privé ne garantit pas que l'intérêt général soit protégé. Or, ces questions d'environnement, qu'il s'agisse de la qualité de l'eau, de la terre, de l'air, ce sont des questions qui relèvent de l'intérêt général et donc qui ne peuvent être soigneusement prises en compte et traitées que par l'autorité publique. Dans cette matière, nous sommes tout à fait hostiles au processus de privatisation qui va laisser à des entreprises privées dont la logique est le profit le soin de prendre en charge des activités dont tout le monde dépend. On le voit d'ailleurs déjà dans un certain nombre de pays en développement où l'eau est privatisée, que la qualité de l'eau n'est pas ce qu'elle devrait être.
Jusqu'où peut aller cette privatisation ? En mars 2001, l'OMC a publié une brochure de 16 pages où les opposants à ces accords, sur les services notamment, sont accusés de répandre des « scare stories », des histoires pour faire peur. Ceci n'empêche pas Agnès Bertrand de prévoir le pire.
si on va jusqu'au bout de la logique de ce qui est demandé respectivement par les propositions européennes en matière d'environnement et américaines en matière d'énergie, les pays perdent leur contrôle sur leur sous-sol. C'est-à-dire qu'il y aura un droit de tirage illimité sur les nappes phréatiques pour les compagnies des eaux. Et quant aux Américains, ils veulent la libéralisation non seulement de la prospection pétrolière, mais ils demandent que toute la transmission des données géologiques soit accessible via le marché. C'est ça qui est très dangereux. Disons que on a déjà scruté les gènes des plantes, on a les brevets sur le vivant. Aujourd'hui, c'est des pans entiers de ce qui constitue le monde naturel qui s'apprête à être livré aux firmes transnationales de services d'environnement.
Heinz-Peter Werner de l'OMC rejette vigoureusement ces accusations.
On est accusé de plein de choses et c'est pas du tout vrai du tout. On n'est pas là pour créer la pauvreté. En fait, notre mandat, le chapeau des accords de l'OMC disent que nous sommes là pour aider les pays pauvres, pour protéger l'environnement, mais aussi d'aider tous les peuples du monde d'espoir une vie meilleure. Et ça, c'est le grand but de l'OMC. Mais notre véhicule pour arriver à ça, c'est par le commerce, parce que pour nous, le commerce est un moteur de développement. Si les gens sont contre l'OMC, ils sont contre le développement, et ça veut dire qu'ils sont contre leur propre avenir de partager peut-être leur richesse avec les pays pauvres.
Les opposants à la mondialisation libérale sont en tout cas unanimes sur un point. Il faudrait au préalable dresser un bilan depuis le traité de Marrakech de 1994, qui fut l'acte de naissance de l'OMC. C'est aussi le souhait de certains gouvernements des États du Sud qui expriment des réserves sur la privatisation des services. Yannick Jadot de Solagral.
Aujourd'hui, les promoteurs d'une libéralisation du commerce disent que ça favorise, ça crée des richesses et que ça favorise le développement et la croissance. Un certain nombre de pays, des ONG, des organisations professionnelles disent « Nous, on a des cas précis où la libéralisation des échanges accroît plutôt les inégalités, accroît la pauvreté, accroît les pollutions, accroît la surexploitation des ressources naturelles. » Donc nous demandons effectivement une évaluation de l'impact de la libéralisation des échanges sur la santé, et on a vu le cas des brevets pour le sida en Afrique du Sud, sur l'environnement, sur le social, sur la démocratie, sur la culture, que ces évaluations soient entreprises par des gouvernements en collaboration avec les sociétés civiles, avec les communautés qui sont les premiers touchés par ces systèmes de libéralisation. L'évaluation du bilan de la libéralisation engagée dans le cadre de l'OMC et avant du GATT relève pleinement du champ de l'OMC, mais alors pas forcément du secrétariat de l'OMC, qui est une toute petite structure, mais bien du secrétariat plus les membres de l'OMC.
Le porte-parole de l'OMC estime que ce travail d'évaluation des dégâts éventuels n'est pas du ressort de l'organisation. C'est au gouvernement de s'en charger. Explication avec Heinz-Peter Werner, porte-parole de l'OMC.
Il y a 2 ans, pas mal des ONG qui ont dit qu'il faut quand même étudier les effets. Il y aura des études faites par l'Union européenne, par le Canada, par les États-Unis, même par la Norvège, la Suède aussi, qui pour le moment montrent pas que la libéralisation va détruire l'environnement. Ça va pas du tout dans cette direction. En fait, c'est le contraire. Dès qu'un pays devient plus riche, ils ont plus d'argent pour en fait traiter ces problèmes environnementaux.
Si le protectionnisme n'a pas la cote aujourd'hui, rappelons seulement que la plupart des pays, comme les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la Corée du Sud, se sont industrialisés à un moment donné de leur histoire derrière des frontières bien protégées. Le secrétaire général de l'OMC, le néo-zélandais Michael Moore, qui a pris ses fonctions en septembre 1999, déclarait récemment que l'OMC n'était pas une agence de protection de l'environnement. On s'en doutait un peu. C'était Fréquence Terre, le magazine de l'environnement. Une émission de Ben Kramer avec à la réalisation Fadi Matar et au mixage Rachel Locatelli.
Voilà, un reportage réalisé en décembre 2001. Et la situation a beaucoup évolué en 25 ans. Je tente de vous faire un résumé. En l'an 2000, on l'a entendu, commerce et environnement sont souvent vus comme opposés. La libéralisation des échanges est une priorité. Il y a peu de clauses environnementales dans les accords commerciaux. Aujourd'hui, commerce et environnement sont davantage intégrés. Le développement durable devient une priorité croissante et le réchauffement climatique est pris davantage en compte. On observe donc une recherche d'articulation entre commerce, climat et développement durable. Exemple, l'importance prise par le commerce des énergies renouvelables, éoliennes ou panneaux solaires. Pourtant, des tensions subsistent concernant les coûts de production, la compétitivité et les inégalités entre pays, par exemple. Avec une autre question au centre du débat, aujourd'hui comme hier, faut-il privilégier la croissance des échanges ou la réduction de l'empreinte écologique mondiale? Voilà pour l'émission d'aujourd'hui que vous venez d'écouter en direct sur 98.1 à Nantes, 91 à Saint-Nazaire ou en podcast, bien sûr, sur le site alternantefm.fr. Il est l'heure de notre chanson, j'en ai trouvé une qui colle bien au thème du jour. Elle illustre comment le développement économique et l'urbanisation peuvent entrer en conflit avec la préservation de la nature. Elle est en anglais, j'en traduis juste une phrase pour ceux qui ne parlent pas cette langue. La chanteuse dit « Il semblerait qu'on ignore ce qu'on a jusqu'au jour où on ne l'a plus ». Alors à méditer, en compagnie de Joni Mitchell. À la semaine prochaine.
With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah. Ooh, bah, 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 bah.
They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah.
I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot.